We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission nommée Politique PME. Et comme vous l'aurez astucieusement deviné, nous parlerons de politique au profit des PME et recevrons assez régulièrement sur cette antenne des hommes et des femmes politiques d'envergure nationale dans ce pays au profit des PME. Notre premier invité aujourd'hui, Hervé Morin, que nous allons passer aux grilles des questions. Hervé Morin, bonsoir.
Vous êtes bonsoir.
Président du Nouveau Centre, vous nous accueillez dans vos bureaux ce soir à l'Assemblée nationale. Alors, pour les plus jeunes de nos auditeurs qui vont se faire du coup un peu de culture politique, qu'est-ce que le Nouveau Centre? D'où ça vient? D'où vient le nom? D'où vient son histoire? Mais en quelques mots, l'histoire récente.
Alors, simplement en quelques mots, le Nouveau Centre, c'est une formation politique qui a été créée en 2007, quand François Bayrou a quitté sa famille politique qui était l'UDF, qui traditionnellement était associé à un parti de droite. François Bayrou a appelé à ne pas voter Nicolas Sarkozy et donc, conformément à notre tradition politique, mais aux valeurs que nous portons, la responsabilité individuelle, la liberté d'entreprise, la bonne gouvernance, la tempérance fiscale, toutes ces valeurs, selon nous, nous amènent à un accord avec la droite. Et donc, en 2007, compte tenu du positionnement politique de François Bayrou, j'ai créé un parti politique qui s'appelle le Nouveau Centre, qui comprend une petite cinquantaine de parlementaires et qui est un parti indépendant de l'UMP.
Les grandes valeurs, même si vous venez de les citer en quelques mots, qu'est-ce qui fait les valeurs distinctives du Nouveau Centre comparé à la droite dite traditionnelle?
Si on reste vraiment dans les très très grands principes, nous sommes issus d'un certain nombre de courants de pensée, et ces courants de pensée, c'est le radicalisme. Le radicalisme d'Alain, la laïcité, c'est la grande attention aux libertés individuelles, puisque notre famille politique, c'est celle aussi du libéralisme politique et pas simplement du libéralisme économique, et c'est aussi le courant de la démocratie chrétienne. Nous sommes donc profondément attachés aux libertés, profondément attachés à l'idée que l'homme est au cœur d'un projet de société, et nous sommes profondément attachés à une perspective européenne. Nous voulons construire une Europe fédérée, une Europe politique. Nous ne voulons pas d'une Europe marchande, simplement de commerce, de libre-échange. Nous voulons construire une puissance politique.
Très bien. Alors, il y a un très beau thème de campagne dont vous êtes emparé, qui est un très beau mot en plus, qui est celui de la reconnaissance. Alors, d'abord, pourquoi la reconnaissance? Pourquoi en faire un thème central? Ça correspond à ce thème humain et humaniste que vous venez d'évoquer, mais la reconnaissance, finalement, ça recouvre toute la société et ça va être votre thème majeur.
Je veux partir d'une idée simple qui est le constat du Tour de France que je suis en train de réaliser. C'est que les Français sont en manque de reconnaissance. Les Français ont un besoin profond de reconnaissance, de respect, de considération. Et ça concerne des Français très qu'on n'a pas l'habitude d'associer ensemble. Et je pars de cette belle histoire qui est celle du livre de Florence Aubenas, Quai d'Ouistreham. Dans Quai d'Ouistreham, vous avez ces femmes de service qui font un métier très dur, qui demandent bien entendu à être mieux payées, à avoir un CDI, mais qui demandent d'abord et avant tout d'être reconnues et respectées pour le travail qu'elles font. Et il y a cette belle histoire qu'on a tous connue un jour ou l'autre, qui est celle d'une femme remplacée par une autre, parce que c'est les vacances ou parce qu'il y a un congé maladie, et la remplaçante, personne au bout de 15 jours ne constate qu'elle n'est pas la même que la titulaire, parce qu'elle a la même blouse. Eh bien, c'est ce regard que j'ai envie de transformer, de changer. Ce besoin de reconnaissance, les agriculteurs l'ont, par exemple. Parce que combien de fois ai-je entendu des paysans me dire « mais nous avons une activité stratégique pour le pays, nourrir les Français, nourrir le monde, et pourtant, nous sommes les boucs émissaires de tas de problèmes ». Ce message de la reconnaissance, je l'ai entendu dans la France héritière de l'immigration, qui a envie de créer, d'innover, d'avoir sa place entière dans la société française, et qui a le sentiment qu'elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle pourrait apporter à la société française. Troisième catégorie, prise volontairement dans un autre spectre, je pense que les magistrats ont une problématique aussi qui est celle d'être reconnus pour un métier qu'ils effectuent avec des bouts de chandelle, avec des tout petits budgets, avec une instabilité juridique et fiscale qui est d'ailleurs une plaie de la société française. Et donc, je veux porter un message politique qui est celui de la reconnaissance de chacune et de chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de formation ou de qualification, et avec ensuite, bien entendu, toute une série de politiques qui en découlent. La reconnaissance, c'est bien entendu la rémunération. Comment fait-on pour améliorer le pouvoir d'achat des Français ? Le pouvoir d'achat des Français, ça passe pour moi par une réduction massive des cotisations sociales et l'instauration de la TVA sociale. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais aborder la reconnaissance et le respect du chef d'entreprise. C'est la fin de l'instabilité juridique et fiscale. Je pourrais aborder la reconnaissance et le respect de la diversité de la société française. Comment fait-on en sorte que le monde musulman puisse vivre sa foi avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs que les autres religions, c'est-à-dire que le principe de laïcité puisse être appliqué. Voilà le thème central à partir duquel je veux porter mon projet politique.
Alors, on a assisté, d'ailleurs, nous-mêmes, à un déplacement au Mans il y a quelques semaines.
Vous êtes parti. Vous avez un bel exemple de reconnaissance.
Un très bel exemple. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette journée avec ces chapelières qui réinséraient des jeunes ouvrières et des gens qui créent 6800 emplois de emplois bassement qualifiés et qui les font monter progressivement dans l'organigramme?
Eh bien oui, c'est une autre façon d'évoquer cette idée de reconnaissance. C'est la question de la formation professionnelle, du parcours professionnel. Des femmes qui sont embauchées sans qualification comme aides-ménagères dans cette société O2, au Mans, et qui, de l'aide à la personne, progressent dans l'organigramme de la société, à pouvoir devenir chef d'agence, progressent dans les métiers, d'aide ménagère à aide médicale, d'aide médicale à gouvernante, bref, avec des possibilités d'orientation, de même chez la chapelière, où elle profitait de dispositifs pour permettre à des femmes qui étaient en grande difficulté sociale de retrouver un métier.
Alors les entrepreneurs,
et une fierté.
Oui, exactement. Les entrepreneurs se posent toujours la question de savoir comment ils vont être écoutés par les politiques. Et donc, puisqu'on est dans les coulisses un peu de l'Assemblée aujourd'hui, comment est-ce qu'un dirigeant de parti aujourd'hui donne la parole aux entrepreneurs, synthétise tout ça, en fait un programme, en tient compte, au-delà de ses propres convictions personnelles qui peuvent être éventuellement ébranlées par la pratique et les questions quotidiennes de ce Tour de France?
Je procède par l'écoute et le dialogue. J'ai pas le senti. Je ne veux pas être un homme de politique de plus qui a forcément la vérité sur tout. Je crois profondément au contraire qu'il faut dialoguer, il faut écouter, il faut interroger, il faut faire du benchmarking. Je suis allé en Israël pour voir comment s'effectuait le développement de cette économie de l'innovation qui permet à Israël, avec un pays en situation d'assiègement, de pouvoir faire 7% de croissance par an. Et donc voilà, moi je vais à la rencontre, je fais beaucoup de tables rondes avec des entreprises de taille très différentes, avec des parcours très différents, et j'en tire, me semble-t-il, un projet politique qui pour les entreprises a un sens.
Est-ce que ça veut dire que le centre a ce rôle de jonction dans la société qui permet finalement aux gens de gauche de se dire c'est une droite plus humaniste et je pourrais me sentir assez intégré dans son projet, puis à donner un côté plus doux à l'image qu'on peut se faire d'une droite plus traditionnelle, plus peut-être plus capitaliste dans l'esprit de certains. Est-ce que le centre, c'est vraiment le centre des coalitions, des cristallisations, des regroupements un peu de tout le monde?
Ce qui est certain, c'est que nous voulons porter un projet politique qui transforme notre démocratie et que nous avons une démocratie qui est hyper concentré dans les mains d'un seul homme qui est le président de la République, et que nous pensons au contraire qu'il faut une démocratie dans laquelle la diversité de la société française soit reconnue. On ne peut pas penser qu'un seul parti politique va exprimer la totalité de la diversité, et pour cela, il nous faut construire une coalition gouvernementale, faire en sorte qu'aucun parti ne détienne tous les pouvoirs. Mais comme en Allemagne, comme même en Angleterre, comme en Espagne, comme partout ailleurs, que nous ayons un système dans lequel le pouvoir est obligé de dialoguer avec sa majorité pour faire émerger la meilleure solution. C'est ça, je crois, l'idée centrale de notre formation politique. C'est de peser dans les affaires publiques par l'obligation du dialogue et de la construction.
Alors, pour parler un peu marketing, Est-ce qu'aujourd'hui, on a un profil type de l'électeur du centre hein, qui vote nouveau centre aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, il est extrêmement éclectique, difficile à définir? Il n'a pas d'âge, de sexe, de couleur, d'origine ou au contraire, il reflète toute la société parce qu'il est au centre?
Je serais incapable de vous le dire. C'est d'abord un électeur de la majorité. Ensuite, c'est probablement quelqu'un qui peut être issu de la démocratie chrétienne, qui peut être issu des mouvements libéraux. Et si vous prenez l'analyse électorale, l'analyse par tranche d'âge, très clairement, là où je fais mon meilleur score, moi, c'est chez les jeunes et dans le monde rural. Et moins de 25 ans et dans le monde rural.
D'accord. Alors, en ce qui concerne maintenant nos PME, puisque finalement ce thème de la reconnaissance, il s'applique plutôt bien à des PME qu'on qualifie nous d'une nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui remettent effectivement un peu l'humain au centre. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir revoir à l'occasion de l'élection. Alors, si on prend quelques sujets pêle-mêle, effectivement, les 35 heures, parce que c'est un sujet qui est d'actualité en ce moment, la position du nouveau centre sur les 35 heures, c'est quoi? On remet en cause, sachant que les PME étaient relativement peu touchées, on remet pas en cause. Qu'est-ce que ferait le nouveau centre sur les 35 heures?
Vous voyez, quand j'abordais la reconnaissance, je vais vous l'aborder là pour les 35 heures d'une façon très simple. C'est qu'une société de reconnaissance, c'est une société qui pense que tout ne procède pas de l'État, tout ne procède pas du haut, et que les corps intermédiaires peuvent jouer un rôle majeur dans le règlement d'un certain nombre de problèmes. Et je pense profondément que la question des 35 heures, ça n'est pas une question qui relève uniquement de l'État. Il faut que l'État fixe les grandes règles d'ordre public social, les grands principes, la durée maximale, le repos hebdomadaire, le repos quotidien, bref, ce qui correspond aux grandes règles de protection, et qu'ensuite on permette à chaque branche professionnelle de pouvoir construire son organisation du travail. Parce qu'on voit bien que les 35 heures, ce n'est pas un problème dans des secteurs très capitalistiques, qui d'ailleurs déjà étaient souvent 35 heures avant la loi Aubry. Dans la grosse industrie, c'est pas un sujet, parce que c'est d'abord et avant tout des coûts qui sont liés au matériel, à l'investissement, et que tout ça est très mécanisé. En revanche, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que les 35 heures ne se gèrent pas de la même façon dans des domaines où c'est le facteur travail qui est l'essentiel du coût, l'essentiel des coûts de production. Et que par ailleurs, en fonction des métiers, on n'a pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire le tourisme, l'aide à la personne, l'agriculture, le commerce, le bâtiment, chacun a ses problématiques particulières. Et donc il faut que chaque branche professionnelle, à partir de ces grandes règles, fixe les conditions de durée du travail.
Alors,
ça impose d'ailleurs d'avoir des syndicats représentatifs et beaucoup plus forts.
Tout à fait. Alors, quand on rencontre des entrepreneurs, on l'a vu au Mans notamment, en général, vous démarrez par un certain nombre de questions pour tester un peu des concepts qui sont les vôtres. Alors, il y a celui du financement, il y a celui du temps de travail, il y a celui des charges sociales, l'assouplissement de la législation du travail. Quels sont ceux qui reviennent le plus par rapport à votre début de Tour de France aujourd'hui? Quels sont ceux qui éventuellement contrarient ce que vous pensiez au début, si c'est le cas? Mais en tout cas, tout d'abord, quels sont les grands thèmes sur lesquels vous vous battez, sur lesquels vous testez les gens que vous rencontrez pendant ce Tour de France? Les entrepreneurs, bien
Moi,
sûr.
Moi, il y a une trilogie dans tout ça absolument obligatoire. C'est réduction massive des cotisations sociales, TVA sociale et augmentation des salaires directs, du pouvoir d'achat. J'étais chez Findus la semaine dernière et le directeur de l'entreprise me disait qu'en dépit de tous les efforts de productivité effectués dans l'entreprise, on n'arrivait pas à sortir le bâtonnet au même prix que dans les autres pays européens. Pour deux raisons, le temps de travail, mais aussi le poids des cotisations sociales. Et donc on est dans cette situation acadabrantesque, pour reprendre une formule devenue connue, c'est qu'il y a un coût du travail considérable pour la France et des gens qui sont mal payés. Et donc moi je dis, il faut baisser massivement les cotisations sociales pour redonner du pouvoir d'achat. Et bien entendu, il faut trouver un nouveau financement, et pour moi c'est la TVA. Ça va avoir au moins trois vertus. La première, c'est que les 77 millions de touristes en consommant chez nous chaque année paieront une partie de notre protection sociale. Par ailleurs, cela sera une dévaluation implicite, puisque les produits qui arriveront sur notre territoire verront leur prix augmenter d'autant du montant de la taxe. Et troisièmement, et surtout, c'est qu'à chaque fois que nous consommerons un produit issu des pays à faible niveau de protection sociale, eh bien, indirectement, les Chinois, les Indiens paieront une partie de notre protection sociale. Et donc, je pense que ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont fait les pays scandinaves, il nous faut le faire aussi.
Alors, augmentation du pouvoir d'achat et réduction des charges. Maintenant, il y a un autre sujet qui préoccupe pas mal les entrepreneurs, c'est le financement de leur boîte. Alors, pas trop le financement de leur développement, on arrive encore à trouver de l'argent, mais le financement de l'amorçage d'une nouvelle société. Alors, vendredi dernier, on était avec Jean-François Copé, qui ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité? Est-ce qu'on fait disparaître l'ISF, qui aujourd'hui amène près d'1 milliard d'euros dans les caisses des jeunes start-up des contribuables qui décident, au lieu de faire un chèque à l'État, d'aller le mettre dans les entreprises qui, tout à coup, verraient disparaître ce milliard, voire plus. Alors, quelle est la position du nouveau centre sur ce point? Pas facile à résoudre, finalement.
Moi, je pense que le financement de l'économie, notamment de l'économie d'innovation, en fait, en France, trouver pour un créateur 30 000, 50 000 euros, c'est pas si compliqué que ça. Notamment grâce à ce dispositif et à d'autres. Ça devient plus compliqué quand les sommes deviennent plus importantes. Ouais. Et c'est compliqué après la phase de création. C'est-à-dire qu'après l'amorçage, quand on passe à la période de l'industrialisation, de la mise sur le marché, tous les chefs d'entreprise vous disent que cette période charnière est une période difficile. Et donc moi, je pense profondément qu'il faut que nous ayons un niveau de fonds propres, de capitaux propres nettement plus important. Et pour cela, je défends l'idée d'un vaste mouvement, comme le fait Israël, comme le font les Britanniques, un vaste mouvement de défiscalisation des business angels. On peut défiscaliser, je crois, 200 000 livres en Angleterre. En Israël, c'est 500 000 dollars.
Oui.
Bien entendu, c'est pas tout secteur. Parce que quand vous avez des systèmes aussi puissants, ça ne peut pas se réserver à tous les secteurs. Et donc, les responsables que j'ai rencontrés disent, si c'est pour le mettre dans l'immobilier, ça n'a pas de sens, parce que l'immobilier, de toute façon, en Israël, ça marche déjà à fond.
Ce
n'est pas le sujet. Mais dans l'économie d'innovation, il faut des puissants incubateurs, comme les Israéliens savent faire, et il faut un système de financement de fonds propres à travers des business angels puissants.
Est-ce que il a été pensé également dans ce système de fonctionnement, on commence à y réfléchir un petit peu partout, comment faire en sorte d'inciter plus les grands groupes français aussi à investir dans les PME et pourquoi pas effectivement via une défiscalisation comme on le voit pour le mécénat de compétences. Alors c'est vrai que c'est bien de financer des choses caritatives et c'est un élan généreux qui se respecte tout à fait, mais pourquoi pas le même avantage pour financer ce qui demain crée de l'emploi, crée des richesses, crée de la croissance?
Pourquoi pas, ça fait partie des pistes qui peuvent tout à fait être développées. Vous voyez, le système d'incubateur israélien, c'est un système dans lequel, pendant les 2 premières années, on vous soutient sur des montants qui peuvent être de plusieurs centaines de milliers d'euros, où on prend en charge toute l'administration et où on permet aux chefs d'entreprise d'être en quelque sorte soutenu dans tous ces gestes de la vie quotidienne. Ce sont des sociétés qui font ça, avec d'anciens chefs d'entreprise, avec un apport de 15% du créateur d'entreprise. 85% sont financés sur fonds publics à travers ce système d'incubateurs gérés par des sociétés privées. Et donc, à tout moment, vous pouvez récupérer. Vous pouvez rembourser. Deuxièmement, si cette société, cet incubateur est rentré dans le capital, eh bien, vous pouvez racheter vos actions. Et donc, il y a un système très efficace qui permet de pouvoir faire émerger une économie dans des secteurs où on n'attendait pas forcément les Israéliens compte tenu de l'étroitesse du marché.
Ouais. Alors, si on veut rebondir juste 2 petites secondes sur l'international, qui est le deuxième gros défaut des PME françaises, qui s'exportent mal et s'internationalisent peu, qu'est-ce qui vous a impressionné dans cette visite à Jérusalem, à Tel Aviv. Qu'est-ce que ces boîtes ont que les nôtres n'ont pas, sauf que le pays est petit et que de toute façon ils sont condamnés à exporter, ce qui est une nécessité absolue.
C'est exactement ça.
Mais sur la recherche et développement, pour l'ancien ministre de la Défense que vous êtes, beaucoup de technologies militaires ont trouvé des applications oui. civiles qui sont devenues des cotations en bourse fantastiques. Est-ce que nous, par rapport à cette expérience au ministère de la Défense, c'est des choses qu'on fait ou en France
Oui, on le fait. Moi, j'ai lancé un plan qui s'appelait Rapide, qui permettait de financer pour la première fois de ce qu'on appelle l'économie duale, des entreprises civiles dont la recherche pouvait avoir des retombées militaires. Ça a marché au-delà de toute espérance. On pourrait d'ailleurs le faire avec les régions. On devait le lancer avec le conseil régional Aquitaine. Alors, je ne sais pas si ça a été fait puisque j'ai quitté le ministère il y a quelques mois. On doit pouvoir le faire, à mon avis, à travers un abondement du budget d'équipement du ministère de la Défense. Parce que ça permettra de lever un certain nombre de règles et de contraintes. Les Italiens le font, les Américains le font. Que le ministère de la Défense puisse être un outil au service du développement à travers le financement de l'économie duale. Ça, c'est une piste sérieuse qu'il faut traiter. Mais les Israéliens sur l'exportation, pourquoi le font ? Pourquoi réussissent-ils mieux que nous ? C'est parce que de toute façon, le marché est trop petit. Donc, ils sont condamnés à exporter. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils construisent leur modèle. Et il y a un dernier point qui est extrêmement intéressant dans le système israélien. C'est que faire faillite, ce n'est pas une honte. Tout chef d'entreprise fait faillite une fois, deux fois, trois fois. C'est normal. Quand vous pensez que nous, il y a 20 ans, on voyait ces droits civiques qui supprimaient quand on avait le malheur de déposer le bilan et de faire faillite. En Israël, faire faillite, ça fait partie de la construction du projet du chef, de la construction du chef d'entreprise. Il va se planter une fois, il va se planter deux fois, et puis la troisième fois, il réussira. Et à chaque fois qu'il tombera, on lui dira c'est pas grave, relève-toi et repars. Ça, c'est quand même une culture qu'on aurait besoin d'avoir en France.
Alors ça, c'est un problème, sans y passer trop de temps, mais c'est vrai que c'est un problème récurrent sur lequel tout le monde crie depuis très longtemps. Et puis quand on était certains étudiants en droit, il y avait la fameuse révision régulière du droit des faillites. Il y a un truc qu'on n'a jamais réussi à supprimer chez nous, c'est vraiment cette interdiction, cette mauvaise cotation Banque de France qui colle à la peau du dirigeant, qui a mis même un redressement judiciaire en place, qui parfois sauve l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer déjà cette mesure toute simple que tout le monde réclame depuis 20 ans ?
Ben voilà une proposition de plus.
Bon, mais, donc nous allons adhérer immédiatement. Alors, il y a autre chose qui vous a marqué en Israël sur la recherche et développement, par exemple. Est-ce que vous avez trouvé qu'ils avaient une capacité ? On nous a parlé beaucoup d'un raccourcissement. Il y a quelque chose qu'on sait mal faire en France. On a une capacité d'invention forte. Je crois que le CEA est le record absolu mondial du nombre de dépôts de brevets chaque année, mais qui ne trouve pas d'application de marché. Et tout le monde me dit qu'en Israël, finalement, ils savent tout de suite voir s'il y a une application pour le marché et donc une viabilité économique de ce qu'ils développent. Est-ce que ça, vous avez eu l'occasion de rencontrer cet exemple pendant le trajet ?
C'est pas tout à fait ça. On est dans un modèle assez différent du modèle qu'on vient de construire en France, où on a essayé de créer à travers les clusters la fécondation croisée de l'expérience professionnelle, du marché, des laboratoires, de l'université, des centres de recherche. Là, c'est l'inverse. En Israël, les universités et les chercheurs ne parlent jamais à l'économie marchande. Jamais. Le principe des chercheurs, j'ai rencontré les deux plus grandes universités israéliennes, notamment l'Institut Weizmann, qui est une des grandes références mondiales. Eh bien, un chercheur cherche sans se préoccuper du marché. Les post-docs, en quelque sorte, sont recrutés par l'université après avoir passé plusieurs années à l'étranger pour s'enrichir. On prend les meilleurs. Et même si on n'a pas de laboratoire sur ce domaine-là, dès lors que le chercheur en question est considéré comme une référence mondiale, on crée le labo. Et on lui laisse carte blanche pour faire sa recherche. Il a un programme de recherche. Peu importe si on sait si ça va dégager sur une découverte quelconque. L'essentiel, c'est de lui laisser la liberté du chercheur sans la pression du marché. Parce que, si j'en crois les chercheurs que j'ai rencontrés, c'est que les grandes découvertes ce sont des découvertes qu'on cherche, qu'on n'était pas amené à chercher, en quelque sorte. Et ce sont des découvertes qui souvent sont très loin du domaine de la recherche. Ça va être une recherche en astronomie qui va vous permettre de découvrir le laser, dont les applications sont innombrables. Et ils nous ont donné des tas d'exemples du même ordre. En revanche, dès lors que la recherche a abouti, il y a bien sûr des licences et des brevets qui sont déposés, et il y a une société qui est adossée à l'université et qui, elle, est chargée ensuite de commercialiser ces brevets et de les faire pénétrer dans l'économie marchande.
D'accord. Donc, ils ont inventé ce SaaS immédiat qui permet de perfuser l'économie aussitôt derrière. Alors, pour les quelques minutes courtes qui nous restent, quelques petites questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient régulièrement dans votre tour de France et vos rencontres sur l'assouplissement, j'imagine, du droit du travail? Ça, c'est le thème favori des entrepreneurs et des institutions patronales. Alors, pour le nouveau centre, assouplir le code du travail, ça veut dire quoi? Et quand on veut reconnaître les gens, comment est-ce qu'on arrive à... Voilà.
C'est pas facile, ce sujet-là, surtout quand tu as un taux de chômage aussi élevé que celui-ci. Je crois d'abord et avant tout qu'il faut déjà garantir la stabilité juridique. Les chefs d'entreprise tous n'en peuvent plus de voir les règles changer tout le temps. Et donc, il faut un engagement clair que quand on change un texte, on n'y touche plus pendant des années. Je me souviens de cette rencontre avec le cluster de l'économie solaire, où les entreprises dans le domaine du solaire disaient « Mais vous nous changez les règles tous les trois jours. » le prix de rachat d'électricité d'une part, mais pas que ça. Toutes les normes changent tout le temps. Comment voulez-vous projeter, programmer, planifier des investissements, avoir une stratégie sur le long terme quand les règles du jeu changent tous les jours? Et donc, je pense que au-delà de la simplification du droit du travail, il y a la question de la stabilité juridique qui est indispensable.
Simplification aussi. On a l'impression, mais pas seulement en France, que finalement, on finit par empiler des mesures. Puis au bout d'un moment, ça fait comme les couches de calcaire sur les os, ça finit par plus ressembler à rien. Ce qui, à un moment donné, puisqu'on parle de purge et de remise à plat de la fiscalité, on ne pourrait pas faire une purge, une remise à plat aussi du droit du travail, non pas pour le rendre défavorable à une catégorie, les salariés par rapport aux entrepreneurs, mais de se dire, voilà, réinventons un nouvel équilibre parce que finalement, la société a changé, le contexte a changé, il faut aussi remettre tout ça à plat, lancer, je ne sais pas, un nouveau Grenelle, mais du droit du travail, enfin, c'est des choses envisageables.
Ce qu'il faut, à mon sens, c'est faire la même chose que ce que je préconise sur les 35 heures, c'est-à-dire réduire l'épaisseur du code du travail en renvoyant à la convention collective et à la négociation de branche ou d'entreprise toute une série de sujets. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que ne relève pas de la loi toutes ces dispositions qui ont été accumulées qui fait que le code du travail a triplé de volume en l'espace de 30 ans.
Ouais. Avant de conclure sur une question annexe qu'on envisagera tout à l'heure, alors qu'est-ce qu'on devrait dire finalement à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui et qui se dirait est-ce que je vote nouveau centre demain?
Je dirais qu'il a au moins cette chance-là, c'est que le président du nouveau centre est le fils d'un chef d'entreprise.
Ouais.
Donc au moins il a été baigné dans la culture de la PME pendant les 20 premières années de sa vie.
Et deuxièmement, il l'écoute parce qu'il va à sa rencontre.
Et puis, il l'écoute parce qu'il sait qu'il manque en France 5 millions d'emplois marchands.
Ouais.
Si on compare à la population active britannique, puisque nous avons à peu près le même nombre d'habitants. Et ces 5 millions d'emplois marchands, c'est le moyen de retrouver de la croissance. Et c'est comme ça qu'on réduira les déficits publics. Donc, il faut mettre le paquet sur les PME.
Alors, comme la plupart de nos jeunes entrepreneurs sont internautes, est-ce qu'ils peuvent envoyer des suggestions au nouveau centre par milliers?
Par dizaines de milliers, j'ai une adresse mail attachée à mon nom sur le site de l'Assemblée nationale.
D'accord.
Voilà, et c'est moi qui lis mes mails. Et c'est moi qui y réponds.
Parfait. Voilà un homme qui ne dort plus. Merci.
Oui, enfin, aussi on compte dans la route quand même.
Hervé Mora, une dernière petite question pour nos amis lointains qui vivent, eux, au soleil, de tous les dom-toms. Alors, comment est-ce que dans des îles aussi lointaines, on arrive à maintenir une permanence du contact avec nos amis, notamment des Antilles et des dom-toms de façon générale?
On le fait notamment par des moyens de communication qui soient satisfaisants. Il y a des progrès à faire. Et puis, en matière de développement économique, puisqu'on s'adresse aux PME, toutes les recettes dont j'ai parlé sont des recettes applicables aux Antilles, applicables à toute, ou à la Réunion, applicables à la Polynésie. Et puis pour un certain nombre de bassins économiques, il est clair qu'il faut jouer à fond la carte de l'insertion géographique. La zone anti-Guyane, Caraïbes, ça doit être la zone économique dans laquelle doivent se développer les Antilles françaises et la Guyane.
Un responsable politique national, il va combien de fois dans une vie électorale? Une fois par an? Vous y étiez il y a quelques mois?
Oui, j'y suis allé une fois. J'y suis allé à La Réunion, je suis allé aux Antilles. Je suis pas allé pour. Je devais aller en Polynésie, puis deux fois de suite, je suis obligé d'annuler parce que c'est très long le trajet. Mais sinon, je suis allé dans toutes les. Dans tous nos territoires d'outre-mer. Départements et territoires d'outre-mer.
Question pratique, comment on contacte le nouveau centre dans les Antilles? Vous avez des permanences, des élus?
Il y a une très belle fédération à La Réunion, avec beaucoup d'élus, une très belle fédération à Mayotte. Disons que Guadeloupe, Martinique et Guyane, nous avons quelques élus, quelques adhérents, mais on a encore à faire.
Bon, on ira trinquer un petit rhum à la santé quand le score aura augmenté. Merci Hervé Morin.
Merci beaucoup.
Bonsoir et à bientôt sur cette nouvelle émission Politique PME, dont vous retrouverez une nouvelle édition très bientôt. Au revoir.